Bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin, je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman d'Alune et éducatrice Montessori. Je suis également la maman de 4 merveilleux enfants entre 13 ans et 6 mois, qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements, libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Avant de vous proposer cet épisode, je voulais parler d'une chose qui me tient à cœur. Je propose désormais une formation en ligne qui s'intitule « Initier des cérémonies prénatales ». Vous allez pouvoir suivre à votre rythme un ensemble de vidéos et télécharger des supports qui vont vous guider pour accompagner vos premières célébrations et toutes les suivantes. Je vous laisse aller voir sur mon espace Podia Maman d'Alune. Belle écoute! Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Anaïs, une maman de 2 petites filles qui a eu un cheminement assez particulier suite à sa première expérience assez douloureuse d'enfantement. Elle a vraiment eu à cœur de se préparer pour l'arrivée de sa deuxième. Je vous laisse découvrir ce récit hors du commun, d'une naissance inopinée, hors structure. Bon, alors bienvenue à toi, et puis je te laisse te présenter.
Oui, merci. Donc moi c'est Anaïs, j'ai 31 ans, je sais jamais, 31 et je suis là, du coup j'ai demandé à pouvoir faire mon témoignage sur ton podcast parce que j'ai eu une première naissance, enfin pas la mienne, mais du coup j'ai donné naissance une première fois d'une manière complètement ordinaire, enfin tout ce qui peut être de plus standard dans la société actuelle. Et la deuxième naissance que j'ai donnée s'est avérée un petit peu différente. Je voulais témoigner de du cheminement que j'ai eu entre les deux grossesses, et surtout pendant la deuxième grossesse, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses à la fois sur la société, la manière dont les femmes sont prises en charge dans le cadre de la grossesse, et ça m'a fait aussi, ça m'a donné aussi beaucoup de confiance en moi, en mon corps, et je voudrais transmettre ça à qui voudra bien l'écouter.
Eh ben parfait, parce que c'est vraiment le but de ce podcast, donc je suis très contente que tu aies fait cette démarche.
Super. Alors,
du coup, tu me disais que tu as des enfants qui ont à peu près 3 ans et 8 mois.
C'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ans de temps pour qu'il y ait autant de différences sur ta manière d'aborder la naissance?
Je vais raconter un petit peu la première grossesse et la première naissance, parce que du coup ça amène à ce qui s'est passé ensuite. La grossesse s'est bien passée. Je suis quelqu'un d'assez actif. J'ai pas eu spécialement de soucis. Rien à signaler, si ce n'est les quelques nausées au premier trimestre. Et tranquillement. Au niveau du suivi, j'ai fait quelque chose d'assez standard. J'ai ma gynécologue qui m'a redirigée vers la sage-femme, donc on a des rendez-vous prévus à partir du 6e mois, je crois, à l'hôpital. Et entre-temps, j'avais contacté la même sage-femme que celle qui allait me suivre à l'hôpital, parce qu'elle faisait aussi du libéral. Et du coup, j'ai eu la même sage-femme qui m'a suivie pendant toute cette grossesse-là. Rien à signaler de spécial au niveau de la préparation à l'accouchement. J'ai fait c'était avant le Covid, donc j'ai fait à l'hôpital les petites sessions de groupe à thème qu'on peut avoir avec la sage-femme. Et il se trouve que c'était aussi la même sage-femme qui me suivait moi pour la grossesse, donc vraiment suivie par la même personne de A à Z.
C'est super.
Je sais pas, je pense que je voyais pas beaucoup plus loin que la grossesse, et j'avais pas du tout projeté mon accouchement, et encore moins l'après, je sais pas, comme si l'état de grossesse allait être éternel parce que j'étais bien, et je sais pas. Donc je l'ai vraiment vécu comme ça, sauf que du coup ma première fille, Nora, elle est arrivée avec plus de 3 semaines d'avance. Donc, mine de rien, un petit peu plus en avance, en tout cas, ce que j'avais prévu, moi, comme si ça avait une influence sur ce qui se passe réellement. Mais voilà, j'étais sortie avec des collègues la veille et j'ai perdu les os au milieu de la nuit. Mon travail n'avait pas commencé, donc je suis allée à l'hôpital le matin vers 6h, je crois. Pas de contraction au monito, et ils me disent... alors, avant que je rentre dans le... je vais me rappeler, je me suis inscrite dans la maternité où travaille ma sœur en tant qu'infirmière. Et on s'était dit, elle travaille vraiment en salle de naissance et tout ça. Donc on s'était dit, oh cool, tu pourrais être là au moment où j'y serai, comme elle l'avait été d'ailleurs pour ma... parce que j'ai deux grandes sœurs, pour ma deuxième sœur. Donc j'ai fait comme ça, en me disant, ce sera très bien, j'aurai un allié à ce moment-là. Et donc j'arrive à l'hôpital et ils me disent, ok, pas de contraction, maintenant comme vous avez perdu les os, on doit vous garder à cause des risques d'infection, et si ça démarre pas d'ici 48 heures, on devra vous déclencher. Du coup je me dis, ok, j'avais pas du tout prévu ça, mais c'est pas grave. Donc on commence à faire des tours dans l'hôpital en marchant avec mon copain, et finalement c'est arrivé naturellement assez vite. On est arrivé à l'hôpital, je sais pas, il était 5h30, 6h, je commence à avoir des contractions vers 8h tranquillement, donc j'ai continué à marcher tant que je pouvais. Et vers 8-9 heures, ça commençait à devenir vraiment intense, sauf que quand on a perdu les os, ils ne veulent pas trop nous ausculter trop souvent, parce que à cause des risques d'infection. Donc je ne savais pas trop où j'en étais, et il fallait quand même insister un peu pour qu'ils s'intéressent un petit peu à nous, on va dire. Ma sœur n'était pas encore arrivée, mais je lui avais envoyé un message. Bon, ben voilà, là ça commence. Je te laisse aviser du timing. Je te laisse voir avec Gaëtan, du coup, qui est mon copain. voilà, je crois que je me fais ausculter vers 8-9 heures et j'étais à 2. Donc, je suis passée de 0 à 2 cm de dilatation. Il m'avait dit, ok, c'est très bien, continuez. Sauf que moi, je suis arrivée dans un... C'est devenu assez douloureux, et en gros pendant 2-3 heures jusqu'à 11h30 midi, je suis restée, j'étais même pas en salle de pré-travail, j'étais à côté de la salle d'attente, j'étais dans une salle où on avait bien voulu me laisser un brancard de disponible. Donc je me suis allongée là et j'ai vraiment subi la douleur, et je me sentais pas du tout accompagnée. Et en même temps, j'avais mon copain qui était là à côté de moi qui me disait « Mais pourquoi mais pourquoi tu respires pas comme elle nous a montré à sage-femme ?» J'étais, je lui répondais d'aller se faire voir, pas du tout gentiment, évidemment.
J'entends. Dans ces moments-là, écoute, on peut tout.
Ouais, c'était très compliqué. J'arrivais pas du tout à gérer. Et vraiment, en y repensant maintenant, j'ai vraiment subi ce moment-là.
Et en même temps, moi, quand je t'entends dire ça, je me dis souvent quand même que c'est bon signe. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus dans la gestion de répondre correctement aux personnes qui t'entourent, même à ton chéri, c'est que tu as vraiment le cerveau primitif qui prend le dessus et dit « Ok, les standards, les trucs, on s'en fout. » Quoi.
Bah, ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est sûr. J'ai la sage-femme qui passe une tête parce que Gaëtan me voit comme ça, il sait que je suis pas quelqu'un qui est trop à me plaindre et je lui dis fais quelque chose, enfin je sais pas, il faut qu'on regarde, je pense que ça avance. Et bon, comme il voulait pas trop m'ausculter, voilà, j'ai ma sœur qui finit par arriver en fin de matinée, et à ce moment là les autres urgences, parce que je suis toujours au service des urgences, hein, étant passées, on accepte de regarder où ça en est. Moi, là, je suis... Enfin, je me sens... Enfin, voilà, je suis complètement envahie par la douleur et j'ai même plus aucune notion du temps. Aujourd'hui, je connais un peu le timing avec le recul, mais j'ai pas l'impression que ça a duré si longtemps sur le coup, et en même temps, ça m'est paru une éternité. C'est très bizarre. Donc, je retourne dans la salle d'examen et là, ah oui, madame, vous êtes assise. Bon, ben, on va vous emmener en salle d'accouchement. Ok, merci. et donc, à partir de ce moment-là, les contractions sont devenues. Enfin, là, je sais pas, il a dû se passer un truc dans ma tête en mode ok, j'ai le droit d'avoir mal ou je sais pas, et c'est normal, et c'est parce que ça avance.
Tu t'es sentie tranquille, voilà. En fait, et que, d'après ce que j'entends, c'est que tu t'es dit, ok, 6, tu sais que ça allait vers le bon, et que c'était lancé, que ça allait, que c'était encourageant, quoi.
Ouais, voilà, c'était pas que dans ma tête, et c'était pas, mais ça va, vous êtes primi par madame, ça va aller, ça va pas très vite, gna. Bref, je me suis un peu sentie pas trop écoutée, parce que, sous prétexte que primi par... Donc j'arrive en salle d'accouchement, j'attends encore un petit peu pour avoir, j'avais pas du tout prévu de naissance physiologique, rien du tout. Moi, je suivais le chemin tout tracé que de tout ce qu'il y a de plus normal, en fait. Donc j'attends l'anesthésiste. J'attends l'anesthésiste qui vient me faire la péridurale. Et il me fait la péridurale, et donc je crois qu'il devait être à peu près midi, quelque chose comme ça. Et donc péridurale posée, quelques minutes plus tard, ça va quand même mieux au niveau de la douleur. Et on repasse... une sage-femme qui vient me voir. Ah bah vous êtes à dilatation complète, mais elle est encore un peu haute, alors on va la laisser, on savait pas que c'était une fille à ce moment-là, c'était une surprise, on va le laisser descendre, et puis on passera à la poussée quand ce sera le moment, quoi. Donc on a passé comme ça jusqu'à 15h, on est resté en salle d'accouchement tous les deux avec Gaëtan à essayer de s'imaginer la suite et de se dire que voilà, on approchait le moment de la rencontre avec le bébé, et on était super contents. et donc voilà, 15h, on vient me voir, bon bah allez-y, on va se... Donc, il y a la sage-femme et il y a ma sœur, du coup, qui est infirmière. Du coup, quand il n'y a aucun souci, il y a juste une sage-femme et une infirmière. qui sont là pour m'accompagner. Donc, on s'installe, on prend des photos. c'était vraiment très sympa comme ambiance, quoi. C'était détendu, tout se passait bien, pas de soucis. Et puis, je commence... Donc, je voyais les contractions sur le monitoring. Je les sentais un petit peu, mais voilà, je les sentais un petit peu comme une petite crampe qu'on peut avoir au ventre, mais rien à voir avec ce que j'avais ressenti avant d'avoir la péridurale. Voilà, elle m'a dit de pousser sur les contractions, donc pas de problème. J'ai pas tellement besoin de regarder le monito parce que je les sens un petit peu et j'ai un peu du mal à pousser suffisamment fort, mais finalement, on y arrive. Et voilà, ça a dû mettre un petit quart d'heure, 20 minutes, pour que Nora sorte du coup de mon ventre. Je l'attrape, je la pose sur moi. Je me souviens, on était complètement abasourdi avec Gaëtan, on la regardait comme si une bulle s'était construite autour de nous, et c'est vraiment un moment hyper fort.
La puissance de l'ocytocine.
Ouais. Et au bout de 5 minutes, la sage-femme nous demande « Alors, c'est un garçon ou une fille ?» Et nous, on était complètement abasourdis, donc on n'avait même pas regardé. Et du coup, on regarde en dessous de la couverture et on constate que c'est une fille. Et moi, j'étais d'autant plus contente que je savais que mon copain avait une préférence pour une petite fille. Donc, ça me faisait d'autant plus plaisir. Dans ce sens-là, et donc après, bon, pas de soucis particuliers après cette naissance. Je réfléchis si j'ai autre chose à dire là-dessus, mais moi, en sortant de là, j'avais vécu une bonne expérience d'accouchement, parce que j'avais pas eu de soucis, j'avais eu la péridurale, même si on avait mis un peu de temps à me considérer comme étant en travail, voilà, j'avais un bon souvenir de cet accouchement, et c'est toujours le cas d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était la période de postpartum immédiat était un peu... j'ai eu du mal, hein. C'était l'hiver... Le soleil se couchait tôt, j'étais seule avec ma fille, je me sentais, alors je l'ai allaitée pendant quelques mois, je me sentais à la fois prisonnière et responsable, et c'est pas du tout un sentiment dont j'avais l'habitude, puisque je suis quelqu'un d'assez indépendant, on va dire, et du coup... voilà, c'était un peu difficile, et puis j'avais très peu de j'avais très peu de moments pour moi, ce qui rendait pas les choses simples non plus. Mais bon, j'aime énormément ma fille, et voilà, et ces moments-là sont précieux, mais toutefois, j'étais quand même contente de retourner travailler, de retrouver un peu ma vie de femme en dehors de la maternité.
Je suis désolée, en effet, il y a ma petite puce qui me fait des gros bisous.
C'est très mignon. voilà. voilà pour la première. Et du coup, donc pour répondre à ta question, entre les deux, s'approcher des 2 ans, et on s'est dit on aimerait bien avoir un deuxième enfant, on va se lancer dans l'aventure. Et il se trouve que donc j'ai 2 grandes sœurs, la première qui est infirmière et la deuxième, ma deuxième grande sœur, pour son pour son deuxième enfant, n'avait pas eu le temps d'avoir la péridurale. Et j'ai gardé ça en tête, je pense que j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et donc j'avais ça d'une part, et d'autre part, en repensant à la première naissance, j'avais vraiment envie de ne pas me retrouver dans cette situation à subir ce qui se passe, que je voulais me préparer en maximum
à cette... Excuse-moi parce que le son... Excuse-moi, je te coupe. Je te coupe parce que le son est moins bon, j'ai l'impression de moins en moins bon, donc je te propose qu'on coupe nos caméras pour garder de la bande passante et avoir un son qui soit plus correct. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à maintenant ça allait, puis là je sens que le son se dégrade un peu, du coup voilà, super, merci. Donc tu me disais que tu as donc deux grandes sœurs, dont ta deuxième, dont la, ouais, la plus jeune de tes deux grandes sœurs, ça n'a pas eu le temps voilà, d'avoir la péridurale.
Ouais, elle n'a pas eu le temps d'avoir de péridurale, et du coup j'ai gardé ça en tête, et pour moi, il était... Bon, alors, peu importe si j'avais la péridurale ou pas, en fait, je partais vraiment dans l'optique de ne pas l'avoir comme... Enfin, c'était pas un objectif pour moi. Voilà. Mais je m'étais dit, quel que soit le déroulement de cet accouchement-là, il est hors de question que je passe 3 heures sur un brancard en train de mourir de douleur sans savoir quoi faire et voilà. Donc pour cette deuxième naissance, je me suis beaucoup plus préparée à l'accouchement. Alors je me suis de nouveau inscrite dans la même maternité parce que je sais pas en fait, je crois que j'ai pas trop réfléchi. Il se trouve en fait que cette maternité-là est pas spécialement équipée pour accompagner des naissances physiologiques. Et j'avais pas trop fait attention à ça au départ, mais comme j'avais trouvé ça vraiment trop bien d'avoir ma sœur dans ce moment-là, je m'étais dit ça me paraissait plus important que le fait d'avoir les équipements qui pouvaient aller avec mon projet de naissance. Donc bon, tant pis. Après, j'ai voulu me raviser en cours de grossesse et bon, c'était trop tard. J'étais partie là, donc je voulais avoir toutes les cartes en main pour préparer un accouchement physiologique. J'ai commencé à lire des livres, La naissance au naturel, Que faire de la douleur, tous ces livres avec beaucoup de témoignages et de réflexion autour de la naissance. Et en fait, je me suis rendu compte d'une part que c'était pas impossible de faire face à cette douleur, qu'il y avait déjà que la douleur existait pour une raison, qu'elle faisait partie du processus, et qu'il fallait pas en faire forcément notre ennemi. Je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure des lectures que finalement l'existence de la péridurale et son utilisation en France, c'est beaucoup une question de confort, ou en tout cas c'est une façon pour le système de faire défiler les naissances au moment où c'est le plus facile pour eux de gérer le flux des naissances, en fait, puisque du coup la péridurale ralentit le travail, ça leur permet un peu plus de maîtriser le flux des naissances, on va dire. Je trouvais que c'était pas une bonne raison d'avoir une péridurale, et ça m'a un peu énervée intérieurement. Mais bon.
Je comprends.
Ouais. Donc pas mal de lectures, j'ai été accompagnée par la même sage-femme au niveau du suivi de la grossesse, par contre j'ai fait un peu de yoga et un peu de préparation en hypnose, donc j'ai eu quelques séances d'auto, enfin en fait c'est... travailler l'auto-hypnose pour du coup essayer de... Enfin, mon objectif, c'était toujours le même, c'était d'essayer de ne pas subir, de rester... Enfin, d'avoir un maximum de clés pour que ça se passe dans le moins de douleur possible. Voilà. Au final, j'avais vraiment gardé un souvenir de cette douleur assez fort, contrairement à ce que j'aurais pu penser en sortant, en tout cas, du premier accouchement. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus marqué après. En plus de ça, comme je savais que je n'étais pas dans un hôpital hyper conçu pour accompagner les accouchements physio, j'ai essayé de demander un peu d'aide à ma sœur qui travaillait là-bas, et elle m'a mis en contact avec une sage-femme qui travaillait là-bas et qui voilà, dans l'objectif que j'ai une alliée de plus en fait dans ce projet-là, le jour où ça se présenterait. Donc j'ai discuté avec cette sage-femme de la façon dont je me préparais, de la façon dont je voyais les choses, et elle m'a pas mal accompagnée. Elle m'a donné des clés en plus, par exemple des points d'acupression. Elle m'a donné des petits documents à lire sur ça. Alors moi, je prenais tout ce qui était bon à prendre, donc j'étais ravie d'avoir cette personne en plus avec moi. Je crois que la dernière chose que j'ai faite pour me préparer, mais qui était super importante, c'était d'embarquer aussi mon copain avec moi dans cet esprit-là. Pas toujours simple, parce que je peux pas lui imposer de lire 50 livres et d'être d'accord avec moi forcément, mais alors j'avais marqué mes livres de petits post-it aux endroits que je trouvais importants à lire, et puis il est venu quand même avec moi à une séance d'auto-hypnose avec la sage-femme pour on a fait un petit rappel des positions qui pouvaient aider, dans lesquelles il pouvait me soutenir, et elle lui a aussi montré comment m'accompagner dans ma bulle au moment où j'aurais besoin de me recentrer sur moi et de déconnecter.
C'est vrai que, mine de rien, c'est aussi précieux pour les partenaires de pouvoir avoir aussi des billes pour savoir quoi faire, pour se sentir utile, pour se sentir plus à l'aise, pour...
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, il était de toute façon pas préparé à ce qui allait lui arriver,
On est d'accord.
C'était quand même bien. J'étais contente qu'il se prête au jeu. C'est pas forcément évident non plus. Et voilà, donc c'est les dernières choses que j'ai fini par faire en termes de préparation, et c'était très important, et je suis contente de l'avoir fait. Donc on arrive aux 38 semaines, qui était du coup le terme auquel est née la première, et je m'étais dit bon bah... on ne savait pas non plus, hein, si c'était un garçon ou une fille, donc ce bébé-là va aussi arriver tôt. Donc je me préparais à ça. Donc j'avais fait vraiment ma préparation un peu plus à l'avance dans cette optique-là. Et puis on arrive à 37, 38, 39 et toujours rien. Et là, je commençais un peu à désespérer. Toute proportion gardée, bien sûr, mais
la fin est longue quand c'est comme ça. Oui, ouais, clairement. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent en accompagnement quand les mamans disent non, mais je pense que 37, là je le sens bien, 37, 38 semaines. Et puis je fais oui, mais ça peut être long. Les dernières semaines, quand tout est prêt, quand on est impatiente à la fin, comme ça peut sembler long.
Ouais, et puis plus on se dit que ça va arriver tôt, et plus c'est difficile si ça n'arrive pas tôt.
C'est ça.
Donc voilà, j'étais là, j'arrive à 39 et, Et je me dis, bon, en même temps, je me disais en même temps, si ça démarre pas par la perte des os, c'est bien aussi, parce que au fur et à mesure de mes lectures, j'avais cru comprendre quand même que la poche des os amortissait un petit peu les contractions et que ça pouvait être moins douloureux sans avoir perdu les os dès le départ. Donc voilà, je me disais, bon, ok, c'est bien, mais ce serait bien que ça arrive quand même. À la fin, je cherchais une sage-femme qui faisait de l'acupuncture pour voir si... parce que j'ai entendu dire que du coup, il y a certains points d'acupuncture qui peuvent aider à déclencher le travail. Je marchais toujours beaucoup, hein, puisque j'ai toujours eu la bougeotte pendant mes grossesses. Et toujours rien. On a mangé pissé, on a fait beaucoup de câlins et ça n'a pas suffi à déclencher. Alors je me souviens en plus que on a fait un câlin un soir et que la nuit qui a suivi j'ai eu des contractions qui m'ont fait mal, mais qui n'ont pas lancé le travail. Donc j'étais là, ah bah super. J'étais vraiment déçue. Enfin bon, bref, j'étais un petit peu énervée. Non seulement j'ai mal dormi, j'ai eu des contractions, mais en plus, je n'accouche pas. Donc vraiment, j'étais énervée. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, la première, on a dû la garder à la maison. Je ne sais plus pour quelle raison liée au Covid, mais on n'a pas pu la mettre à la crèche ce jour-là. Mon mari était en télétravail, donc c'était moi qui m'en occupais. Et voilà, première contraction en début d'après-midi, mais j'ai eu quelques contractions qui n'étaient pas très différentes de celles que je pouvais avoir de temps en temps sans que ce soit un début de travail. Donc voilà, je m'étais dit, oh, bah ok, rien à signaler, c'est normal, le corps se prépare. Quoi. Et finalement, en fin d'après-midi, vers 16h30, mon copain prend le relais avec Nora et j'étais partie marcher avec mes bâtons de marche. J'avais besoin de sortir puisque du coup je marchais pas mal. En fait, à la base, je fais pas mal de course à pied et du coup, j'ai troqué ça contre la marche nordique pendant ma grossesse. Et donc, je suis partie marcher avec mes bâtons. Et là, je commence à sentir que quand même, j'ai des petites contractions assez régulières qui ne m'empêchent pas de marcher, qui ne m'empêchent pas de bien respirer, mais voilà, elles ont le mérite d'être là. On va dire qu'elles me ralentissent peut-être un petit peu dans ma marche, mais bon, je me dis, bon, bah, c'est très bien, je marche, ça va aider pour la suite. Donc, je vais marcher une bonne heure, je reviens. Et quand je reviens, il était peut-être 17h30, 18h, et je dis à Gaëtan, tu voulais faire du sport, je crois, bah écoute, va faire du sport maintenant, parce que je crois qu'après, on risque d'être un petit peu occupé. Donc, vas-y, je m'occupe de Nora, et puis va faire un peu de sport. Donc, je prends Nora. À ce moment-là, il y avait un... On sort de la maison, il y avait un petit manège qui était installé pas loin de la maison, donc on y va, j'emmène Nora, et en fait, pendant tout le temps où je me suis occupée d'elle, j'ai plus senti les contractions. Donc je me suis dit, ok, bon, bah, c'était peut-être pas ça, en fait, finalement. Entre-temps, j'avais quand même envoyé un message à ma sœur et à la sage-femme de l'hôpital en disant bon bah peut-être que et puis après je dis bah en fait je sais pas je m'occupais de Nora et en tout cas je les ai plus trop sentis. On revient à la maison vers 18h30 et là ça revient assez régulièrement, hein. J'étais en train de lire des petits livres à Nora, je lui lisais des petites choupies. C'était... Bon, d'ailleurs, elle en lit toujours, mais... Donc, je lui lisais les petits livres et Gaëtan, il me demande, mais tu as des contractions, là, c'est tous les combien Je dis, mais je sais pas, je compte pas, tous les un par choupie, on va dire, un par livre, je sais pas, c'est des livres...
Qui J'aime m'a... bien la comparaison, c'est vraiment une comparaison de maman, quoi, un par choupie.
Ouais, c'est ça, des livres qui doivent mettre 2-3 minutes à être lus, ouais, un par choupie. Ok, et puis à ce moment-là, je pouvais lire le livre, pas de problème. Bon, je commençais un petit peu à me tortiller parce que ça me faisait du bien de changer de position pendant que ça contractait, mais voilà, moi j'étais tranquille. Et puis j'étais dans une optique, parce que bon, on était quand même aussi dans cette période Covid, je me disais le plus tard j'arrive à l'hôpital. Et le plus longtemps, je reste chez moi avant pour être dans un environnement qui est favorable pour gérer la douleur. Donc, voilà, c'est mieux si je peux rester un maximum à la maison, mais ne pas arriver trop tard non plus à l'hôpital, parce que si je peux avoir la péridurale, je dirais peut-être pas non à ce moment-là. Donc voilà, Gaëtan emmène Nora au bain. Je commence à préparer à manger, moi, pendant qu'elle prend son bain. J'ai une copine qui habite à côté et qui était prévue comme étant la personne de garde, si besoin, de venir garder la petite. À qui je passe un coup de fil, elle me dit « Ah bah je suis sûre, je suis encore au travail et puis je dois passer faire un truc, est-ce que tu as besoin que je vienne tout de suite ?» Je dis « Non, écoute, je pense qu'on ira dans la nuit, fais ce que tu as à faire et tu viens après, il n'y a pas de souci. » Voilà, à ce moment-là, je commençais quand même à vraiment me tortiller, voilà. Je pouvais parler, alors j'estimais que ça allait. Et j'étais... Enfin, ça allait, quoi.
D'accord.
Donc, elle me dit qu'elle arrivera d'ici peut-être une heure ou deux heures. Donc, je dis, OK, pas de problème. Moi, ça me paraissait être plutôt bien dans le timing. On se met à table. Je me mets sur le ballon pour manger. Parce que ça me faisait du bien. Et j'ai ma fille qui me demande toutes les 30 secondes « Mais maman, pourquoi t'es sur le ballon ?» Et là, du coup, on commençait... Enfin, je me souviens d'avoir vu mon copain qui s'énerve un peu parce que je commençais à avoir du mal à répondre à ses questions. Et lui... commençait à stresser aussi, je pense. Mais c'est tous les combien, là, tes contractions je dis, ben, je sais pas, t'as qu'à compter. voilà, moi, j'étais plus en train de me dire, bon, ben, ça va, j'arrive à manger, c'est bon, quoi. Tout va bien.
T'étais déjà un petit peu partie ailleurs, en fait.
Ben, peut-être, je sais pas. Okay. Je sais pas, j'étais confiante, on va dire. Ouais, je savais que c'était normal d'avoir mal, je savais que j'avais pas perdu les os, donc ça allait. Finalement, on mange, et puis là, je perds les os sur le ballon. Et je dis, ah bon, bah, soit je suis en train de faire pipi, soit j'ai perdu les os. Donc, je vais aux toilettes pour me nettoyer. Et je lui dis, je vais aller prendre une douche. Je vais aller prendre une douche. Et puis, en plus, j'ai les cheveux sales. Il faut que je refasse mon shampoing avant d'aller à la maternité. J'envoie un message à ma sœur pour lui dire, ok, je viens de perdre les os. Bon, Gaëtan, il est un petit peu angoissé, là, il me saoule un peu. Mais je prends ma douche et puis on viendra après, quoi. Puis en plus, on pouvait pas partir sans emmener Nora, soit sans la laisser avec quelqu'un. Donc voilà, Gaëtan gère le coucher de la petite. Et Donc là, je vais à la douche. Et en fait, je sais pas, je me suis dit, sur les contractions qui ont suivi la perte des os, je me suis dit que j'avais lu que ça passait vraiment à un niveau supérieur, en principe. Et en fait, sur celles qui ont suivi immédiatement, j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus fort. Donc je me suis dit, bah, ça va, j'ai le temps d'aller prendre une douche.
Hyper, hyper confiant.
Ouais, ouais, vraiment. Et puis en fait, je sais pas. Comme pour la première, j'avais perdu les os sans être en travail. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi, il faut avouer. Donc je vais prendre ma douche. Là, les contractions s'intensifient quand même beaucoup. La douche me fait du bien. Voilà, les contractions, c'est toutes les, vraiment très, je sais pas, toutes les, on va dire, toutes les 1 minute 30 et elles durent peut-être 20 secondes. Elles sont pas trop longues. Elles sont pas trop longues, mais elles sont très rapprochées et si bien que je sors de la douche, j'arrive pas à me sécher les cheveux, j'arrive pas à choisir des vêtements, j'y arrive pas. Je dis à Gaëtan, est-ce que tu peux me sortir un t-shirt, s'il te plaît ? J'y arrive pas. J'avais tout prévu, il avait mon sac, il avait une liste de choses à prendre pour aller à la maternité, donc c'était bon. Il réussit à coucher Nora, il rappelle ma copine qui doit venir, « Bon, tu viens, parce que là, il faut qu'on y aille. » Et finalement, bon, on se dit, ça va, Nora dort, ma copine a les clés, elle va arriver d'ici quelques minutes. S'il se passe 10 minutes, enfin, je ne sais pas, Nora dort, donc il n'y a pas de problème, on peut la laisser quelques minutes le temps qu'elle arrive. Et donc, il prend mes affaires, j'ai envie de dire, il m'emmène, parce que vraiment, je crois que j'étais plus maître de moi à ce moment-là. Donc on habite dans un appartement, donc on prend l'ascenseur pour descendre au sous-sol pour aller à la voiture. Et là, en fait, c'est devenu tellement intense que à chaque contraction, je suis obligée de me mettre à quatre pattes pour faire passer la contraction. Et parce que finalement, je sais pas, à ce moment-là, je suis obligée de me mettre à quatre pattes à chaque contraction. Donc je m'arrête tous les 10 mètres. On arrive devant la voiture, je vois la porte de la voiture, le siège passager, et je lui dis, mais je peux pas m'asseoir, je peux pas prendre la voiture, il faut que j'aille dans le coffre pour me mettre à quatre pattes, c'est pas possible. Et alors là, je me suis un petit peu fait engueuler quand même, et il me dit, mais tu dis n'importe quoi, on remonte, j'appelle les pompiers.
D'accord. Lui, il était vraiment. Il avait un stress, d'après ce que tu décris, qui montait crescendo en même temps que tes contractions.
Ouais. Ouais, là, il commençait à vraiment stresser. Bon, ça faisait un moment, et puis bon, Nora qui avait eu du mal à s'endormir, ça n'avait pas aidé. Moi qui communiquais pas tellement parce que j'étais un peu dans mon truc, mais il voyait que ça commençait à s'accélérer. Donc, on reprend l'ascenseur pour retourner au rez-de-chaussée. Lui téléphone aux pompiers et il dit on va se mettre devant comme ça ils viennent nous chercher directement pour aller à l'hôpital. Donc on sort au rez-de-chaussée, je commence à j'avais pris une serviette dans ma c'est le seul truc auquel j'ai pensé, j'avais pris une serviette avec moi. Donc on se met devant, sous le porche de l'immeuble. J'avais mis une serviette au sol et je m'étais mise à quatre pattes dessus. Parce qu'à chaque contraction, j'étais obligée de me mettre à quatre pattes. Et voilà, et Gaëtan était au téléphone avec les pompiers. Donc la personne lui dit « Ok, il faut qu'elle s'assoie assise. » Et alors moi, ayant lu tous les livres de récits d'accouchement physio, je savais très bien que j'allais pas accoucher en position assise, donc sûr j'allais accoucher, mais pour moi la position assise c'était pas prévu, et en plus mon corps aurait pas accepté que je me mette assise en fait.
Je pense que tu m'étonnes, il y a des fois où tu sais, comme tu disais, bah là je pouvais pas m'asseoir en fait, c'est pas une mauvaise volonté, c'est juste physiquement c'est tellement au-dessus ce que tu vis, c'est juste, tu sais que c'est pas possible, c'est non, quoi.
Ouais.
C'est ça ?
Exactement, ouais. Exactement. Et la personne lui dit, donc la personne lui dit de le mettre en haut-parleur, puisque j'étais pas conciliante, on va dire. Madame, il faut que vous vous mettiez assise. Et je lui dis non, je ne peux pas. Enfin, je réponds tant bien que mal que non, je ne me mettrai pas assise. Et du coup, la personne lui dit mais vous en êtes où ? Et du coup. Il lui demande est-ce que vous voyez la tête. Et là, Gaëtan met la main sur mon pantalon. J'avais un pantalon très fluide, genre sarouel, un peu pantalon d'été. Il met la main, j'étais assise. Il met la main sur, du coup, sur mes fesses et il dit ah oui, je sens la tête.
Ah d'accord.
Donc il baisse mon pantalon. Et, oui, oui, il y a la tête, je la vois. Ok, je sais pas trop où j'en étais dans ma tête à ce moment-là, mais en tout cas, j'étais confiante. Je savais que ça allait bien se passer, en fait. Je sais pas comment dire, mais j'avais entendu des récits, j'avais lu des histoires, et voilà, c'était naturel, et ce qui allait se passer, et ça allait bien se passer. J'ai pas eu tellement le temps de m'inquiéter d'ailleurs. Et donc, on était toujours avec ce téléphone en haut-parleur par terre. Un voisin qui passe, oui, parce que bon, on n'était pas chez nous,
bah oui.
On était dehors. Un voisin qui passe et Gaëtan qui lui demande une couverture. Est-ce que vous pouvez me passer une couverture, s'il vous plaît ? Donc, la personne en question va chercher une couverture et voilà, bon après pour la naissance en elle-même, je poussais hein, sur chaque contraction, j'étais obligée depuis un certain temps. Il y a eu une contraction, deux contractions pour faire sortir la tête. Après, je me souviens que la personne au téléphone a dit « il faut que vous tourniez la tête, monsieur ». Et donc il a demandé mais dans le sens horaire ou anti-horaire comme si ça avait vraiment de l'importance. Bon, quoi qu'il en soit, il a tourné la tête dans le bon sens manifestement, et sur la dernière contraction elle a glissé, elle est sortie, il l'a rattrapée. Et voilà, et les pompiers sont arrivés 5 minutes après.
Les pompiers avaient donné cette consigne, ouais, par rapport à la tête, parce que pour eux, c'était important qu'il fallait faire quelque chose. Quoi.
Ouais, okay. Il fallait la faire tourner.
D'accord. Alors qu'elle tourne seule, la tête, si personne n'est touché.
Je sais pas. Bah ouais, j'avais jamais entendu ça, mais
d'accord.
Ok. Et les pompiers sont arrivés, j'avais, donc c'était une deuxième petite fille, j'avais Maëlys sur moi, j'avais enlevé mon t-shirt, donc j'étais complètement nue, j'avais ma fille sur moi, avec une couverture autour, et je commençais à avoir vraiment très froid, donc les pompiers m'ont embarqué sur le brancard, et je suis allée dans le camion de pompiers. Je suis allée dans le camion de pompiers, j'avais toujours le cordon, donc ils ont proposé à monsieur de couper le cordon. Voilà, c'était assez intense, et en même temps, moi j'étais très zen, ils m'ont dit elle va bien, elle n'est pas en hypothermie, ce qui est le principal risque du coup, surtout qu'on était dehors, hein, c'était au mois de mai, mais quand même.
C'était pas un mois de mai très chaud, hein, de toute façon, cette année.
Non, et c'est pas très chaud, mais bon, on va dire que ça a été, je l'ai gardé sur moi. Bon, après, on a attendu que les médecins du SAMU arrivent. Ils ont pris mes papiers, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, j'avais Maëlys sur moi. Quand le médecin est arrivé, elle m'a demandé si le placenta était sorti. Je lui ai dit que non. Et elle a commencé un peu à m'embêter avec ça, comme s'il fallait que ça sorte tout de suite. Et moi, je savais, enfin, j'avais lu que les contractions revenaient après pour faire sortir le placenta. Et à vrai dire, elle est, enfin, du coup, elle m'a un peu auscultée et à chaque fois qu'elle me touchait, enfin, ça me faisait très mal, quoi. Donc j'avais juste envie de lui dire arrête de me toucher, laisse-moi tranquille. Bon, elle a pris finalement, elle a pris Maëlys, donc elle s'est occupée de ma fille. Ça m'a laissé un peu de répit et puis effectivement les contractions sont revenues d'elles-mêmes. Et j'ai le placenta est sorti. C'est marrant. Vraiment, la nature, ça m'a étonnée. Parce que j'avais essayé de le faire sortir en poussant de moi-même avant que les contractions se redéclenchent. Et ça venait pas du tout. Et là, c'est revenu tout seul. Et finalement, sans aucun effort, c'est sorti, quoi. Et bon, il faut vraiment... enfin, ça m'a surprise le fait que la nature sache vraiment comment faire et fasse les choses très bien et sans douleur. Enfin, voilà, c'est ça, c'est sorti tout seul et c'était très bien. Et voilà, pour la fin de l'histoire, on est arrivé à l'hôpital, je sais pas, vers 22h, donc je sais plus, j'ai perdu les os vers 20h15, elle est née à 20h45 et pour redonner un peu de contexte dans le temps. Et on a dû arriver à l'hôpital vers 22h, puisqu'on a attendu le SAMU. Et voilà, il fallait faire tous les papiers. Et j'ai ma sœur qui m'attend à l'hôpital, qui m'attend en larmes d'émotion. C'était un moment assez fort. Et à ce moment-là, j'ai un peu moi-même ressenti... En fait, je me suis vue dans ses yeux et je me suis dit « Ah ouais, quand même, il s'est passé ça. ok. » Et j'ai eu une retombée un peu d'émotion à ce moment-là. Et j'étais très contente de la voir et elle a pris sa nièce dans ses bras et elle m'a accompagnée. Alors, ils m'ont quand même emmenée en salle d'accouchement pour vérifier que tout le placenta était sorti et tout ça. Et puis après, je suis allée en chambre directement. Mais voilà pour la fin de l'histoire. Et donc, ça a été vraiment très fort et en même temps quand je repense à ces deux naissances alors le seul regret que je peux avoir sur cette deuxième naissance c'est de pas avoir eu ce moment d'euphorie partagée avec Gaëtan parce que lui était vraiment
dans la gestion
stressé, ouais, stressé. Dans la gestion exactement et puis pour le coup lui il savait que c'était une petite fille parce qu'il l'avait demandé à la dernière écho donc j'étais la seule à avoir la surprise à ce moment là et ouais, il n'y a pas eu ce moment d'euphorie juste après la naissance. Bon, on a pu repartager ensuite, mais voilà. Mais globalement, si tu me demandes sur les deux naissances, laquelle j'ai préférée, incontestablement, j'ai préféré la deuxième.
Ouais, ouais. Alors, c'est rigolo parce que moi, il y a plein de choses qui me traversent quand j'écoute ton récit. Alors déjà, c'est vrai que je comprends tout à fait pour du coup, ton compagnon parce que c'est quand même un gros poids, un gros travail, on va dire. De tenir l'espace, donc tenir l'espace et faire en sorte que la femme qui est en train de donner naissance, elle puisse être à l'aise dans son environnement. Donc déjà, en structure hospitalière, c'est pas toujours évident parce que c'est un peu l'inconnu. À la maison, en général, du coup, les partenaires sont plus à l'aise parce que c'est leur petit environnement. Mais là, dans la rue, avec un endroit pas toujours très propice à une naissance, forcément, ça doit rajouter pas mal de stress. En fait, quoi.
Ouais. Que je n'ai pas eu moi. Mais
bien sûr, mais oui, parce que toi, t'étais dansé, t'étais dedans, tu le vivais, quoi. Et à côté de ça, c'est rigolo que tu dises que finalement, c'est la naissance dont tu gardes les plus beaux souvenirs, sachant que je pense qu'une personne sur deux redoute vraiment de pouvoir donner naissance n'importe où. Une femme enceinte sur deux en fin de grossesse.
Oui, c'est vrai.
Évoque, alors je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça exactement, mais pour qui c'est un stress de se dire que ça peut arriver n'importe où et du coup, à peur d'accoucher dans la rue, hein, clairement. Pour les coups.
Comme bah quoi. Oui, je ne le conseille pas spécialement, mais c'est pas ce qui m'a dérangée ouais. du tout sur le moment.
Ouais. Tu as pu le vivre finalement à ta manière et puis t'écouter, quoi. Avoir ouais, la position que tu voulais, avoir te laisser le temps.
J'ai pas eu le sentiment de. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu autant de douleurs. Voilà, parce que peut-être que. Pas.
Une naissance à la maison, c'était pas du tout un projet que vous puviez avoir. Vous aviez peut-être déjà abordé l'idée que. Et si ça s'est passé avant ou pas du tout?
Non, j'ai voulu m'inscrire. En cours de grossesse, je me suis dit ça aurait été bien que je m'inscrive en maison de naissance parce que l'idée d'un accouchement physio me plaisait. Mais à la maison, non, pas spécialement. Pas spécialement.
D'accord, comme quoi.
Mais maintenant, alors c'est absolument pas au programme, mais si voilà, s'il y avait une troisième naissance, je me sens tout à fait le faire à la maison pour le coup. Ça me poserait pas de soucis.
D'accord. Ah oui, donc tu as cheminé aussi après ce que tu as vécu, du coup tu dis que il y a d'autres possibles qui se sont ouverts, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, s'il y avait un message que je veux vraiment faire passer, c'est qu'il faut avoir confiance en son corps et voilà. En France, tout est surmédicalisé. Alors, il y a des bons côtés, hein, ça, évidemment, sur les grossesses difficiles, mais voilà, il faut s'écouter. C'est important aussi de préparer avec la personne qui accompagne la naissance, parce qu'elle a un rôle super important. Moi, je pense que si Gaëtan n'avait pas été là, je ne sais pas, j'aurais accouché dans ma douche, j'en sais rien, mais j'aurais probablement pas bougé de la maison. Et heureusement qu'il était là pour prendre les décisions à un moment où mon cerveau n'était plus là, c'est sûr.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir déposer tes récits de naissance ici.
Avec plaisir.
Je suis ravie de pouvoir mettre à disposition ces histoires qui sont un peu hors du commun quand même. Et j'espère pourront rassurer, questionner et puis faire cheminer les personnes qui écoutent.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez participer financièrement via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. Je me permets de lancer un appel. Je ne fais pas la démarche de contacter moi-même des personnes afin de venir témoigner ici. J'aime que ce soit un élan naturel de ces merveilleuses personnes qui se présentent. Toutefois, j'aimerais que ce podcast puisse être le reflet de la parole et des histoires de l'ensemble de l'humanité. Aussi, j'invite les personnes de tout horizon, les personnes queer, les personnes racisées, qui le souhaitent à venir me contacter si l'idée de venir témoigner ici les tente. Le monde a besoin d'entendre vos histoires, elles sont précieuses, telles qu'elles sont. Vous pouvez me contacter par mail via mamandalune@gmail.com. Merci.